Bonsoir, avec des confrères journalistes, nous analysons les grands faits qui ont dominé l'actualité pendant la semaine. Et pour ce soir, deux thèmes ont été retenus pour vous à savoir. On fera un zoom sur les négociations de la CENCO, la majorité présidentielle, le Front pour le respect de la Constitution et l'UNC appellent à la renégociation du poste de président du Conseil national de suivi de l'accord après le décès de Étienne Tshisekedi. Ces regroupements politiques estiment que ce poste était uniquement réservé à la personne d'Étienne Tshisekedi. Et dans notre deuxième et dernier thème, nous nous penchons sur l'affaire des fosses communes. Le bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme fait état des 10 endroits dans le Kasaï central dont les faits et témoignages précis indiquent qu'il s'agit des fosses communes. Pour en parler, je reçois dans cette émission pour le débat Jean-Marie Kamboa, directeur des publications du journal L'Avenir, paraissant à Kinshasa. Jean-Marie Kamboa, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Innocent Kaboukala, journaliste indépendant. Bonsoir, Innocent.
Bonsoir, madame.
Merci de nous suivre, partenaire d'essai sur la fréquence FM. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radioocapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission. Comme d'habitude, avant d'entrer dans le vif de notre débat de ce soir, jetons un coup d'œil dans les colonnes des journaux quinois pour voir comment la presse écrite et analysée les sujets retenus pour vous ce soir. La revue de presse avec vous, Guy Maté.
Bonsoir. Les discussions directes à la CENCO sur l'arrangement particulier, l'affaire des fosses communes découvertes au Kasaï central, ainsi que les opérations d'enrôlement sont parmi les faits qui ont défrayé la chronique cette semaine. Ainsi, la prospérité titre, en cas d'échec des discussions directes, UDPS Jean-Marc Kabound menace d'appliquer l'article 64 de la Constitution. Et le quotidien est précisé, c'est dans un message transmis à toute la base devant les présidents fédéraux de l'UDPS que Jean-Marc Kabound, son secrétaire général, a appelé tous les militants et les grandes figures du rassemblement à la vigilance sur la signature de l'arrangement particulier le lundi prochain, date butoir qu'a évoqué Fridolin Ambongo, l'adjoint de Marcel Outembi, tous ces prélats catholiques. Les conséquences seraient énormes si et seulement si la CENCO, en concert avec les parties prenantes aux discussions directes, n'arrivait pas à finir avec les discussions directes. Dans le cas échéant, Jean-Marc promet des actions de terrain conformément à l'article 64 de la Constitution. Soutien appuyé de la France à la CENCO, Mgr Outembi et l'abbé Chollet seront reçus vendredi par Jean-Marc Hérault, annonce le site 7sur7.cd qui relaie un communiqué du Quai d'Orsay daté du 23 mars dans lequel il est dit que Monsieur Jean-Marc Hérault, ministre des Affaires étrangères et du Développement international, recevra le 24 mars le président de la Conférence épiscopale du Congo, Mgr Marcel Outembi, et son secrétaire général, l'abbé Donatien Chollet. Le site renchérit en affirmant que pour la France, la conférence épiscopale joue un rôle fondamental de médiation dans la crise politique que traverse actuellement la RDC. Son autorité morale, son impartialité et sa légitimité sont reconnues par tous les acteurs congolais, conclut ce communiqué. Le même site publie sur sa page, voici les ministères qui réclament les rassemblements. Si la nomenclature du prochain gouvernement est désormais une question réglée, la problématique des attributions des postes ministériels au regard des composantes est loin d'avoir trouvé un compromis. Le site 7.cd précise que les rassemblements réclament entre autres les ministères de l'économie, du plan, des postes et télécommunications, du budget, de la fonction publique et de la communication et médias. Bien entendu, ces exigences du rassemblement n'ont pas l'approbation des composantes titulaires de ces ministères, notamment l'opposition signataire de l'accord du 18 octobre et la majorité présidentielle. Au sujet des fosses communes découvertes au Kasaï central, RadioCapi.net titre RDC, le bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, a rapporté la présence de 10 fosses communes au Kasaï central. Sur le même chapitre, RadioCapi.net titre l'Omami des présumés miliciens des Kamouna Sapu sème l'insécurité à Lwilou. Ce site rapporte l'information livrée par la députée Angélique Milemba, selon laquelle des miliciens se réclamant des chefs traditionnels Kamouna Sapu ont installé une permanence de 10 miliciens par village. Cet élu indique que ces miliciens tuent et font la loi dans cette partie du pays. Elle appelle urgemment le gouvernement à venir en aide à la population qui se sent complètement abandonnée. Enrôlement des électeurs, forum des As titre CENI, le sens d'un double satisfecit. Et de préciser que la moisson de plus de 20 millions d'enrôlés sur les 40 à 45 projetés vaut à la centrale électorale en l'espace d'une semaine les félicitations du Raïs au nom des chefs de corps constitués de la République et du président de l'Assemblée nationale. C'est quotidien renchéri que cela est suffisamment rare pour ne pas être souligné. En l'espace d'une semaine seulement, toutes les institutions nationales en République démocratique du Congo ont jeté des fleurs sur la Commission électorale nationale indépendance CENI en sigle pour le travail des titans abattus à ces jours. Merci, c'est la fin de cette revue de presse.
Merci Guy Maté pour cette revue de presse. Jean-Marie Kamba, je rappelle que vous êtes directeur des publications du journal Avenir parution à Kinshasa. Est-ce qu'il y a d'autres sujets qui ont fait l'actualité pendant la semaine, hormis ceux retenus pour le débat de ce soir?
Bon, oui, Madame Kelly, il y a la réunion du Conseil de sécurité qui s'est tenue à New York, dont les enjeux, les problèmes étaient déjà connus dès le départ. Tout le monde savait qu'il serait question du renouvellement du mandat de la MONUSCO. Tout le monde savait aussi qu'à l'occasion, la MONUSCO aura un mandat qui lui permettra cette fois-ci de s'apesantir sur l'organisation des élections, étant donné qu'elle avait déjà apporté une aide suffisante à l'opération d'enrôlement et de la révision du fichier électoral. De l'autre côté, il y avait aussi la présence des invités, notamment Mgr Outembi, qui a été convoqué, invité, afin de donner sa lecture des choses, étant donné que
c'est sur la situation politique
voilà,
du pays.
Étant donné que c'est lui qui a reçu la mission des bons offices du chef de l'État afin de permettre aux parties prenantes de s'harmoniser et de conduire le pays vers l'organisation des élections.
Merci Jean-Marie Kambwa. Innocent Kaboukala, vous êtes journaliste indépendant. Faut-il renouveler le mandat de la MONUSCO vu la situation politique que traverse le pays actuellement?
Oui, moi je crois que c'est très important pour l'instant, parce que, comme vous le savez, si nous devons être sérieux avec nous-mêmes, dans cette projection d'organiser les élections d'ici la fin de l'année, nous avons besoin de plus de sécurité et beaucoup de moyens pour pouvoir acheminer ces kits électoraux un peu partout en République démocratique du Congo. Nous connaissons la faiblesse de notre État en ce qui concerne la logistique. Et donc, jusqu'à preuve du contraire, la MONUSCO a quand même démontré de quoi elle était capable dans ce domaine-là. Donc, je crois que ça valait la peine, de ce point de vue-là, pour que le mandat de la MONUSCO soit prolongé.
Merci, Innocent Kaboukala. Premier thème de ce soir, la disparition d'Étienne Tshisekedi entraîne la renégociation du poste de président du Conseil national des suivis de l'accord de la Saint-Sylvestre. Déclaration le week-end dernier de la majorité présidentielle ici à Kinshasa. André Ala Tundu, porte-parole de la MP, s'exprimait ainsi au cours d'un point de presse. Selon lui, la désignation consensuelle du président du comité des sages au sein du rassemblement débloquera la désignation du premier ministre. On écoute André Ala Tundu. Bonjour, au micro de Paul Matendo.
Certains leaders du rassemblement déroutent l'opinion par des déclarations insolites sur la responsabilité supposée, et je dirais même putative, de la majorité dans l'éclatement du rassemblement et sur son incapacité à trouver de successeur à M. Étienne Tshisekedi. Pour la majorité présidentielle et pour tout homme politique bien pensant, la disparition de M. Étienne Tshisekedi entraîne logiquement la renégociation du poste de président de la SNSA en faveur d'une personnalité consensuelle au regard des exigences de toutes les parties prenantes. Il est évident par ailleurs que la désignation d'un président du comité des sages consensuel au sein du rassemblement débloquera le processus de la désignation du Premier ministre sur la base de la présentation d'une liste de 3 personnalités.
Pendant que l'ONU, l'Union africaine, la SADC, l'Union européenne et l'OIF appellent à l'application rigoureuse de toutes les dispositions de l'accord de la Saint-Sylvestre, à Kinshasa, Vital Kamerhe de l'UNC, Eve Bazaïba du MLC, demande aussi la renégociation de certaines dispositions du dit accord, notamment celui du président du Conseil de Sages. Du côté du Front pour le respect de la Constitution, on recommande à la majorité au rassemblement une conscience mutuelle. On écoute Eve Bazaïba au micro d'Aska Zigbia.
ces postes-là étaient réservés au président Tshisekedi, une petite personne. Raison pour laquelle le rassemblement lui a été réservé la question. Alors maintenant qu'il y a une donne nouvelle, nous pensons que le front est en droit de revenir à sa position initiale. Nous sommes la seule composante qui ne sera pas jugée partie, qui n'est pas impliquée dans la gestion de la chose publique, et nous sommes à même de diriger plutôt l'institution de mise en œuvre de l'accord. Il n'est pas normal que on soit à la fois juge et parti. Le rassemblement va gérer, la majorité va gérer, et les autres parties prenantes, une partie de l'opposition et la société civile. Si en son temps, la société civile était au milieu du village et que la société civile n'était pas impliquée dans le partage du pouvoir, je pense qu'on aurait donné à la société civile. Mais maintenant, nous jouons ce rôle-là de force et tampon. Front pour le respect de la Constitution, ramener les uns et les autres au respect des règles. Notre idéal, c'est arriver à organiser l'élection dans les délais en décembre 2017.
Jean-Marie Kemboa, comment vous analysez cette proposition de la MP et même de certains partis de l'opposition qui demandent à ce que le poste du président du Conseil national de suivi de l'accord soit renégocié?
Madame, je pense que la classe politique de notre pays doit nous éviter le jeu du ping-pong. On en a marre d'assister à ces cirques, on en a marre d'assister à ces cinémas. Le peuple congolais qui avait applaudi des deux mains la signature de l'accord de la Saint-Sylvestre voudrait que celui-ci soit appliqué et que les élections soient réellement organisées. Parce qu'à un moment donné, on se pose la question de savoir, est-ce que vraiment la classe politique est consciente des enjeux? Est-ce que la classe politique est consciente de la fatigue de la population? Est-ce que la classe politique de notre pays est consciente du fait que les élections doivent s'organiser en décembre 2017? Ou bien on fait semblant de négocier pendant qu'on n'a pas la volonté de négocier? Moi, je pense que toutes ces questions doivent nous inspirer et pousser ceux-là qui sont le premier à être concernés à mouiller les maillots, à donner le meilleur d'eux-mêmes pour que nous ayons la signature de ces arrangements. Sinon, si nous nous engouffrons...
On n'a pas besoin de renégocier ce poste, si je vous comprends bien, Jean-Marie Kemboa.
Renégocier ou pas, ce sont des techniques, c'est une volonté, parce que si tout le monde est conscient du fait que la période transitoire là, ne sera que pour 4 ou 5 mois, si on est conscient de ces faits-là, et qu'on veut effectivement aller de l'avant, on a prôné l'alternance depuis des années, depuis des mois. Si on est conscient du fait qu'on n'aura que 3 ou 4 mois de transition pour aller aux élections, moi je pense qu'il y a certaines choses que l'on peut laisser tomber pour privilégier l'intérêt général. Moi je pense qu'il y a des choses qui peuvent être écartées afin de privilégier cette cohésion pouvant nous amener vers les élections. Donc que le bon sens nous inspire
et que... Par d'autres du côté de la majorité de l'opposition, ou vous pensez qu'il y a un seul camp qui bloque le processus?
J'ai commencé à parler de la classe politique. C'est une responsabilité collective. Mais au sein de la classe politique, il y a quand même la majorité et l'opposition. Au niveau de l'opposition, il y a ces tiraillements là, il y a ces petites querelles là, que nous pensons que s'il y a une bonne foi, s'il y a vraiment intérêt d'aller de l'avant, si on a vraiment pitié du peuple qui souffre, qui a soif d'aller aux élections, moi je pense qu'il y a lieu d'harmoniser et de faire ce que le peuple voudrait plutôt que de s'éterniser. Au niveau de la majorité présidentielle, n'oubliez pas, Madame Kelly, que ce sont les négociations. Et la théorie des négociations voudrait que l'on commence, que l'on passe toujours la barre très haut pour la descendre au fur et à mesure. Maintenant, au moment où du côté du rassemblement ou des rassemblements, il n'y a pas du répondant, donc comprenez que à un moment donné, la majorité puisse camper sur ses positions.
Inosso Kabukala, comment vous analysez cette proposition de renégocier le poste de président du Conseil national de suivi de l'accord?
C'est une distraction. Mon confrère a dit de bonnes choses en première partie, hein, lorsqu'il parle de ce théâtre que nous offrent les hommes politiques de façon générale, même si il n'a pas manqué de pointer du doigt ceux qui sont en premier les vrais responsables de cela, parce que les tireurs de ficelles jusque là dans ces négociations là, c'est essentiellement la majorité, parce que on ne voit pas pourquoi la majorité se mêle de ce qu'on qualifierait de désordre au niveau du rassemblement. Mais pourtant, quand on pose une analyse froide, on constate que au niveau du rassemblement, il y a déjà le leadership qui s'est dégagé et quasiment qui a pu mettre d'accord tout le monde, du moins ceux en ce qui concerne l'opinion qui croit au rassemblement. Personne ne conteste la désignation de Félix Tshisekedi ou encore la désignation de Pierre Lumbi, en tout cas au niveau de l'opposition, la vraie opposition. Ça,
mais
là, il n'y a pas de problème.
On ne va donc pas refuser le statut d'opposant à Olenga Nkoy ou à Bruno Tshibala qui conteste l'élection de Félix et Pierre Lumbi.
Madame, le problème, c'est qu'il y a un juge naturel, c'est la population. Si Olenga Nkoy estime qu'il est aussi opposant au même titre que les autres, il y a un test naturel. Il suffit seulement de se mettre à la rue, inviter la population pour expliquer ne serait-ce que ce qui se passe au niveau du centre interdiocésain, donc au niveau de la Cinco, pour voir combien vont répondre à cette invitation. Et à ce moment-là, il pourra juger si effectivement il a une opinion qui le suit. Donc moi, je crois que c'est ça le test. C'est la même chose pour Bruno Tshibala. Il faut pas se cacher. Tous ces gens, on les a connus, c'est parce qu'il y avait un certain Étienne Tshisekedi. Ils étaient derrière Étienne Tshisekedi. C'est comme ça qu'ils ont été connus. Ils n'ont pas été connus par eux-mêmes. Donc ça, ce sont des manœuvres inutiles pour voir jouer les jeux de la majorité. La majorité a intérêt. Elle a déjà échoué énormément. Nous attendions cette majorité pour organiser les élections. Il y a déjà pratiquement 6 mois, si je ne me trompe pas, parce que depuis déjà l'année dernière que ces élections-là devaient avoir lieu. Mais ces élections n'ont pas eu lieu. Et c'est pour cela que nous sommes allés négocier. Et tout le monde sait que l'objectif ici de cette transition est d'organiser les élections. Mais pourquoi est-ce qu'on doit se battre? C'est là que je rejoins à nouveau M. Jean-Marie, mon confrère ici. Parce que il ne reste plus que quelques mois. Tout le monde sait ce pourquoi on doit occuper le poste du président du CENSA. Tout le monde sait pourquoi on doit occuper le poste du Premier ministre ou même les portefeuilles là. On sait. Mais ce n'est pas parce que on voudrait soit bénéficier de quelques salaires, je ne sais même pas combien, qu'on va donner, qu'on doit faire perdre tout le temps ici et verser carrément dans la distraction alors qu'il faut aller à l'essentiel. Moi, je crois que les hommes politiques de la RDC, notamment ceux de la majorité, doivent cesser. On est déjà fatigué énormément.
La population. Ça fait 4 mois qu'on est en train de suivre ces travaux.
Alors qu'au départ, quand nous prenons le cas seul de l'arrangement particulier, c'était prévu pour 3 jours. Mais on en est déjà à plus de 2 mois. Rien que pour trouver un accord sur l'arrangement particulier. Et tout ça, pourquoi? Parce qu'on essaie de. Aujourd'hui,
il n'y a pas de bonne foi de la part des acteurs politiques congolais.
En tout cas,
qu'est-ce qui justifierait ce comportement?
Il y a la mauvaise foi, d'une part, mais d'autre part, une certaine cupidité inutile. Mais si l'intérêt est vraiment l'organisation des élections, ils peuvent taire, ils peuvent mettre ça de côté. Tout est clairement défini. Le programme de ce gouvernement, il est clairement défini. L'objectif étant celui d'organiser les élections, le gouvernement qui sera mis en place aura principalement pour tâche collecter les fonds nécessaires avec l'appui des partenaires pour pouvoir organiser les élections. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on doit tergiverser là-dessus. Ils nous offrent un théâtre que nous ne pouvons pas supporter. Ils ont intérêt, au stade actuel, de revenir au bon sentiment. Parce que quoi qu'il arrive, la population qu'on croit toujours naïve, mais à un moment donné, elle va finir par exploser. Et à ce moment-là, si on atteint ce niveau-là, je ne sais pas qui va résister.
Jean-Marie Cambois, je rappelle que vous êtes directeur des publications du journal Avenir. C'est un quotidien qui paraît à Kinshasa. La SENCO est formelle par la bouche de Monseigneur Ambongo. Lundi, tout s'arrête. Vous pensez que lundi, vraiment, on va en finir avec la SENCO?
Je suis tenté de dire que c'est de la communication. Je suis tenté de dire que c'est quelqu'un qui conduit les débats, qui à un moment donné peut appeler à l'ordre. Je suis tenté de penser que c'est une façon pour lui de faire pression sur les parties prenantes afin qu'ils comprennent. Parce que, comme nous venons avec Innocent de le dire ici, c'est comme si on ne comprend pas de quoi il est question. C'est comme si on ne comprend pas qu'au finish, il y a les élections qu'il faut organiser. Et que si on ne les organise pas, il en va de notre responsabilité. Nous avons évoqué l'appui de la MONUSCO ici, qui a permis à ce que la CENI puisse enrôler à ce jour jusqu'autour de 20 millions. Comme pour dire que au mois de juillet 2017, la CENI risque de nous surprendre. Quel discours allons-nous alors avancer? Quelle justification allons-nous alors donner au moment où d'autres institutions comme le Parlement n'attendent que les lois essentielles à l'organisation des élections au niveau du gouvernement pour pouvoir les voter? Raison pour laquelle je pense que non, c'est de la bonne politique et c'est de la bonne négociation pour Monseigneur Fridolin Ambongo de pouvoir taper du poing sur la table.
L'UDPS aussi a menacé de quitter les travaux si lundi on n'arrivait pas à signer ces arrangements particuliers.
Je n'irai pas jusqu'à parler des partis politiques. Excusez-moi, je n'irai pas parce que au niveau de la CENCO, les discussions, les négociations se font entre les parties prenantes. Il y a une partie prenante qui était à l'accord de la Cité de l'Union africaine et une partie qui n'y était pas et qui a été conviée. Donc j'ai vraiment du mal à pouvoir parler, à pouvoir faire de la pub gratuite à l'UDPS qui ne les mérite pas, dans la mesure où ce n'est même pas elle qui conduit les débats, mais les débats sont conduits par la CENCO et c'est à la CENCO de tirer la sonnette d'alarme et de tirer les conséquences des actes des politiciens et non pas à l'UDPS. Parce que quand l'UDPS évoque ce qu'il convient d'évoquer, nous pensons que c'est de son droit de faire pression de son côté dans un coin quelconque, mais comme je venais de le dire, les débats se font ou se font entre les parties prenantes et l'UDPS est c'est un sous-ensemble dans un grand ensemble. Donc la voix de l'UDPS pour l'instant ne peut pas tellement porter. Et peu importe le nombre de militants ou d'adhérents que l'on peut avoir, mais ce n'est pas une voix sur laquelle il faut compter. Mais je ne sais pas, pour autant aussi j'ai dit qu'il faudrait la minimiser. Parce que même si M. Kaboun avait claqué la porte, cela n'a pas obligé Félix Tshisekedi, que nous respectons bien, à pouvoir aussi claquer la porte.
Mais le parti a appuyé quand même Kabound.
Oui, mais si le parti a appuyé Kabound, je me rends compte qu'il y a d'autres représentants du même parti. Il y a les négociations qui se font en secret qu'on sort. Vous souvenez lundi dernier, il y avait des négociations au niveau de la CENCO et dans lesquelles la majorité présidentielle n'avait pas pris part. Moi, j'estime que l'UDPS ainsi que ses représentants qui prétendent, qui sont en train de convoiter différents postes qui sont prévus par des arrangements particuliers, ne prendront pas ces risques-là de quitter ces bateaux en ce moment précis, un moment décisif où les décisions importantes doivent être prises.
Innocent Kaboukala, cette mise en garde de la CENCO, faut-il la prendre au sérieux ou c'est juste une façon de communiquer, comme l'a dit Jean-Marie Kamwa, pour faire pression sur les parties prenantes aux travaux de la CENCO?
Madame, moi j'aimerais prendre ça en compte. Je ne voudrais pas minimiser, mais en même temps, je précise que il ne faudrait pas qu'on reste assez, parce que c'est une espèce de menace, mais on en a eu. Parce que déjà, tout le monde se souvient qu'à un certain moment, la CENCO nous avait parlé d'un plan B qui n'est jamais arrivé. On est arrivé jusqu'à aujourd'hui, alors que si ce plan B, s'il faut compter le temps, donc à l'époque, le plan B devait intervenir avant même le 31 décembre de l'année dernière. Mais ce plan B n'a jamais été appliqué. Donc, je voudrais considérer, prendre ça en compte, mais en même temps encourager une chose, c'est que les prélats qui font ce travail de médiation sont quelque part des martyrs. À un moment donné, il faut savoir lever le ton et de la bonne manière, en citant nommément là où il y a le problème. Parce qu'ici, ils jouent trop à une espèce de neutralité pendant qu'ils savent très bien de quel côté vient le blocage. Ils le savent très bien. Et ils devraient vraiment faire un effort pour arriver à ramener tout le monde autour de cet accord de manière à ce que le peuple congolais puisse bénéficier. Je rappelle ici une petite correction par rapport à ce que Jean-Marie disait tout à l'heure. Les partis aux négociations ne sont plus deux. ils sont trois. Parce que vous avez d'une part la majorité, vous avez le rassemble, et puis l'opposition signataire de cet accord. On a pensé qu'on pouvait faire deux camps, mais ça n'a pas été possible. Vous vous souvenez, ils ont refusé eux-mêmes de s'allier du côté de l'opposition représentée ici par, par le rassemblement. Donc il y a ces trois partis, et c'est pour cela que d'ailleurs il y a un problème. Aujourd'hui, vous voyez, il y a une donne, Eve Bazaïba, qui réclame de jouer un rôle de présidence du CENSA, et vous comprenez ce qu'elle dit. Quand vous avez suivi l'interview qui est passée tout à l'heure, vous comprenez que elle ne se considère pas comme membre du RASOP, donc elle fait partie de son opposition à elle, et donc c'est une voix à part. Donc il faut considérer que ce sont ces trois partis là qui sont là, et cela fait déjà beaucoup, et ça complique. On a vraiment besoin que le prélat puisse trouver d'autres manœuvres, d'autres mécanismes pour pouvoir... Bon, heureusement qu'il y a déjà ce plaidoyer-là qui est... quand vous lisez certains passages de ces plaidoyers, donc on peut supposer que ça peut avoir du répondant. Le cas, par exemple, lorsqu'il demande aux Nations Unies et aux autres organisations de continuer d'exercer des pressions réelles sur le pouvoir, de manière à ce que, sur les hommes politiques, même si, encore une fois de plus, ils ne parlent, ils mettent tout le monde dans le même sac, mais quand même, ici, on sait que c'est la majorité qui est principalement l'élément moteur dans ce blocage, que cette majorité arrive à comprendre que le pays ici appartient à tout le monde et la majorité ne devrait pas être éternellement au pouvoir.
Madame, un petit mot.
Allez-y, Jean-Marie Kamba.
Un petit mot. Si, dans une hypothèse, évoquons une hypothèse selon laquelle, comme Innocent l'a dit, c'est la majorité présidentielle qui bloquerait les débats. C'est là où nous interpellons la classe politique. C'est ici où nous interpellons l'opposition. Si, et seulement si, on peut admettre qu'il y a des taupes au milieu de vous qui ne sont là que pour vous désorganiser. Si on peut admettre, comme l'affirme une certaine opinion, que parmi vous, il y en a qui sont corrompus et qui travaillent pour l'autre camp. Mais où est le sens de votre responsabilité? Où est votre amour de cette nation que les évêques, grâce à leurs bons offices, ont sauvé la nuit du 31 décembre, lorsque tout allait imploser? Mais où êtes-vous? C'est le moment que les uns et les autres doivent être conscients ou conscientisés afin de sauver les navires, de comprendre que ce qui nous intéresse pour le moment, ce n'est pas les petites sommes d'argent que l'on peut nous donner, ce n'est pas la top ou n'importe qui est là, mais c'est l'intérêt général du pays qui prévaut. L'intérêt général aujourd'hui, c'est quoi? C'est de confondre toutes nos divergences, de nous trouver un leadership responsable, parce que de l'autre côté, quand même, il y a une armée bien organisée au niveau de la majorité présidentielle. Il y a quand même des gens bien rodés qui ne sont là et qui ne font qu'attendre. Donc, on voudrait aussi que de votre côté, qu'il y ait du répondant.
Et donc, vous incombez la responsabilité à l'opposition.
Madame, je parlais de la classe politique. Je reviens toujours à la classe politique où nous trouvons les deux
composantes.
Mais en responsabilisant ceux-là qui semblent encore être divisés. Parce que les moments venus, peut-être qu'ils vont s'arranger, ils vont harmoniser les vues afin de cheminer ensemble vers l'idéal commun.
Alors, Innocent Kaboukala, pour débloquer la situation par rapport au poste de président du Conseil national des suivis de l'accord, il y a le coordonnateur du rassemblement de l'opposition dans les provinces issues de l'ancien Katanga, Gabriel Tungu, qui propose que le CNSA soit dirigé par la CENCO.
Bon, c'est une possibilité. Pourquoi? Parce que j'essaie de comprendre sa démarche. J'ai suivi effectivement cette interview-là. C'est une prise de position qui est basée sur essentiellement la notion de confiance. Pourquoi la majorité ne veut-elle pas que l'opposition, disons le RASOP, puisse diriger le Conseil national de suivi? Parce que simplement la majorité estime que elle croit, c'est là vraiment le défaut, elle croit que il y aurait beaucoup de possibilités pour manœuvrer en sa défaveur si elle n'a pas le contrôle de cette institution, parce que je rappelle que cette institution est l'une des plus importantes pendant cette période de transition. Et donc quand on gère cette institution, on a la possibilité de faire réussir selon qu'on est de l'opposition, ou alors on a la possibilité de faire échec à ce gouvernement selon qu'on est de la majorité. Alors c'est sur ce fond là que les deux camps sont en train de se battre. C'est ainsi que le président le coordonnateur du RASOP au Katanga pense qu'il faut trouver une personnalité ou une institution neutre. Donc il a pensé à la CENCO, parce qu'on estime que la CENCO, puisqu'elle fait déjà ce travail-là de bons offices, elle peut jouer à la neutralité en suivant l'accord tel que cela est stipulé. C'est juste sur une question de confiance que la proposition de l'honorable Gabriel Kyungo-Kumwaza est basée.
Alors Jean-Marie Kamba, rapidement, qu'est-ce que vous pensez de cette proposition de Kyungo-Kumwaza?
Oui, je l'admets, je la valide, mais je vous dirais d'abord que la CENCO puisse conclure l'arrangement particulier et que les dossiers soient présentés au chef de l'État. J'ai vraiment hâte que les conclusions prennent fin et que les dossiers soient présentés à qui des droits.
Merci Jean-Marie Cambois. Deuxième et dernier thème de ce soir, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme plaide pour la sécurisation jusqu'à l'aboutissement des enquêtes des 10 endroits dans le Kasaï central, dont les faits et témoignages précis indiquent qu'il s'agit des fosses communes. Dans une interview accordée à Radio Capi, la coordonnatrice de l'unité rapports et enquêtes spéciales de ce bureau souligne que ces rapports sur ces 10 cas ont été envoyés au gouvernement congolais. On écoute Barbara Matasconi au micro de Michel Kifinda.
Pour certaines allégations, nous ne sommes pas en mesure de confirmer pour l'instant. Pour d'autres, nous nous sommes rendus sur les lieux, nous avons vu des restes humains, nous avons des indications assez précises à travers des témoignages des familles des victimes, des témoins, ainsi de suite. Par rapport au nombre de fosses, nous avons communiqué des indications très précises sur des endroits où nous sommes assez sûrs que ce que nous avons vu, les témoignages que nous avons recueillis, font état des fosses communes. Pour être plus précis, ça se réfère pas seulement à des faits récents. On avait transmis aux autorités le mois de décembre des allégations sur la présence de 7 fosses communes qui remontaient, d'après nos recherches, à des faits qui se sont passés en fin septembre 2016 en Coton, dans les territoires de Demba. Et ensuite, le mois de mars, nous avons transmis un autre rapport assez précis avec des lieux et des précisions des dates, ainsi de suite, au gouvernement, faisant état d'au moins 3 fosses communes aux alentours de Chimburu.
C'était la Barbara Matasconi, coordonnatrice de l'unité rapport et enquête spéciale du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Innocent Kaboukala, je rappelle que vous êtes journaliste indépendant. Quelle analyse vous faites sur toutes ces révélations du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme?
D'abord, j'aimerais marquer mon sentiment vraiment d'indignation. Après l'information sur les fosses communes qu'on avait détecté ici à Kinshasa en son temps, on était presque dans les mondes, dans le choc. Mais aujourd'hui, on ne pouvait pas imaginer un instant qu'on pouvait retrouver les mêmes choses sur le territoire. On pensait que, bien que cette enquête n'avait presque pas abouti jusqu'à aujourd'hui, que les auteurs, qui ne sont toujours pas connus, allaient s'abstenir de commettre ce genre de choses. Mais voilà que ça nous revient encore, et cette fois-ci dans le Kasaï central. Je pense que c'est la conséquence d'une mauvaise gestion de ce dossier Kamuina Sabo, parce que c'est essentiellement à la suite de ce conflit-là qu'on en est arrivé à cette fosse commune. Aujourd'hui, on parle même des 10 fosses communes dans cette partie de la République. Donc, comme l'a dit Mgr Outembi lors de son plaidoyer à New York, je pense qu'il est temps maintenant que l'on fasse une enquête indépendante qui puisse nous donner cette fois-ci le vrai bilan. Parce que les fosses, on les connaît, c'est 10 jusque-là, mais on ne connaît pas combien de victimes, combien de corps ont été jetés dedans. Donc il faut qu'on dresse un bilan pour que l'on puisse d'abord avoir cette information, et que maintenant aussi qu'il y a eu arrestation des présumés tueurs, il faudrait que cette enquête aboutisse également pour qu'on sache si effectivement ces gens sont, on peut les inculper, effectivement pour ça on peut mettre à leur charge tout ce massacre-là, et que par la suite que les auteurs soient réellement punis, parce que dans cette affaire, certainement qu'il y a des auteurs intellectuels qui ont été à la base de ça pour des raisons, et il avoue, alors on doit le savoir. Il faut vraiment qu'on puisse élucider cette question qui est triste et qui fait tache d'huile d'ailleurs dans tout le processus que nous allons que nous devons commencer avec la fin de comme on l'espère de c'est pour parler de la CENCO, et je crois que on a plus que besoin maintenant de plus de lumière pour ne serait-ce que soulager tant soit peu. D'abord, toute la
vous parlez d'une enquête indépendante. Oui. On a suivi Lambert Mende, porte-parole du gouvernement, qui a avoué dernièrement être au courant des plus de 3 fosses communes dans cette partie du territoire national et que les enquêtes des juges militaires étaient déjà lancées. En plus de l'enquête menée par les juges militaires, vous voulez qu'on fasse une autre enquête indépendante parce que on ne fait pas trop confiance aux enquêtes au niveau
mais
national.
J'ai évoqué le cas des fosses communes découvertes ici à Kinshasa. Nous n'avons pas de résultats jusque-là. Oui. Et donc, qui a fait ce qui a mené cette enquête? Le même Lambert Mende, auquel vous faites allusion, avait parlé de cette enquête qui allait venir en faisant confiance aux autorités dont il fait partie. Mais aujourd'hui, il revient parce que lui-même, au départ, avait refusé qu'il n'y avait pas, qu'à la vidéo qui circulait, c'était un montage. Mais aujourd'hui, on lui demande le contraire. Mais il devrait, ne serait-ce que pour ça, se taire un peu et que laisser faire les choses pour que l'on en arrive à une enquête sérieuse. Cette enquête-là, elle ne fait pas confiance. Aucun Congolais ne peut faire confiance à cette enquête-là si on n'amène pas des autres enquêteurs en toute indépendance d'esprit qui viendraient d'ailleurs, notamment, il y a beaucoup d'experts au niveau de la communauté internationale qui sont bien spécialisés dans ce domaine pour question d'apaiser. Parce que même feu Kamuina Sapo, en question dont on a parlé de la mort jusqu'aujourd'hui, les vraies circonstances n'ont jamais été élucidées. Et le corps lui-même, on l'avait réclamé pour qu'on le puisse le voir, on ne l'a jamais vu comme tel. Et vous savez, quand on parle d'un chef coutumier, lorsqu'il meurt, il y a eu une cérémonie pour pouvoir l'enterrer, ça n'a pas été fait. Et tout ça, c'est déjà autant de problèmes, autant de mots qu'il y a. Voilà pourquoi on a besoin d'une enquête sérieuse, d'une enquête indépendante qui ne puisse que donner d'abord la lumière avant peut-être de penser à autre chose. Et surtout qu'on aboutisse par identifier les vrais responsables et qu'ils soient punis.
Jean-Marie Kamboa, journaliste, directeur et directeur des publications du journal L'Avenir, par exemple à Kinshasa. En plus de l'enquête déjà lancée par les juges militaires, comme l'a dit le porte-parole Lambert Mende, vous pensez qu'on a besoin d'une enquête indépendante?
Bon, si on ne pouvait que faire les bilans des enquêtes, je peux affirmer que celle du Bureau conjoint des Nations Unies peut être amplement suffisante, mais je voudrais quand même que la Commission nationale des droits de l'homme, celle qui a aussi reçu mandat du législateur de pouvoir enquêter, de pouvoir aussi descendre sur le terrain et de corroborer les informations qui ont été livrées par les bureaux conjoints. Donc, de l'autre côté, étant donné que du côté de l'armée, des FARDC, il y a déjà une enquête sur le terrain, je pense que on ne peut que la laisser le temps de pouvoir continuer et d'aboutir à ces conclusions qui, je pense, seront communiquées à tous. Mais nous devrions savoir, Madame Kelly, qu'il s'agit d'un autre pays, il s'agit de la RDC. Nous n'avons pas de passeport, nous n'avons qu'un seul passeport congolais et nous n'avons qu'un seul pays au monde. Dans cet état de choses, c'est du pays qu'il s'agit. Et s'il y a des tueries, ce sont vraiment des mauvaises choses qu'il faut décrier. Il y a des fosses communes, comme il y en a, nous les décrions, ce sont des mauvaises choses, mais nous devons comprendre qu'il s'agit de l'avenir de notre pays, il s'agit de la RDC dont on parle et non pas de notre pays du monde. Et quelle sera la réputation de notre pays? Il est vrai que nous sommes vite sortis du cycle du pays capital mondial du viol. Il faut quand même saluer les efforts qui ont été faits là-dessus pour sortir de ces sinistres tableaux. Maintenant, aujourd'hui, il ne faudra pas qu'on s'attire encore les projecteurs des caméras internationales parce qu'il y a eu des fosses à gauche ou à droite. Moi, je pense que c'est de notre responsabilité en tant que Congolais de faire de sorte que des choses pareilles n'arrivent pas. Ce sont des choses qui sont des natures, non seulement à tenir l'image de notre pays, mais aussi la réputation. Il y a des gens qui pour investir dans notre pays, tiennent compte des petits signaux, des petits faits là, que l'on dégage, des étincelles. Il y en a qui ne tiennent compte que de ça pour venir investir à Kananga, pour venir investir à Tshikapa. Comment voudriez-vous que les gens qui ont suivi cela, des fosses communes, des miliciens qu'on ne parvient pas à maîtriser, qui sont devenus incontrôlés, comment voulez-vous que dans un contexte pareil, qu'un investisseur, même s'il a pesé des risques, qui viennent prendre le risque dans un coin pareil de la République. Donc, c'est vraiment de notre responsabilité de faire de sorte que notre pays soit paisible, soit calme, soit en paix, étant donné les défis que nous avons à relever. Nous avons un pays très pauvre. Nous sommes très pauvres. Et par rapport à ces défis-là, moi, je pense que ça devrait nous interpeller à faire mieux pour ne plus être plongé dans tous ces bilans macabres que l'on connaît.
Attends, le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a demandé une commission d'enquête internationale. Vous pensez que le gouvernement pourrait accéder à cette demande, pourrait accepter que cette commission d'enquête internationale soit mise en place?
Étant donné que qu'au niveau de l'armée, il y a eu une enquête, étant donné que les bureaux conjoints des Nations Unies, je pense que la MONUSCO représente la communauté internationale, je ne vois pas une autre raison pour laquelle on aurait une autre commission. Vous savez comment travaillent les bureaux, il a toujours été professionnel avec ses moyens, il dispatche les agents qui sont capables de relayer et de lui apporter toutes les preuves possibles.
Vous estimez que ça serait pas une enquête de plus?
Je pense que c'est suffisant à cette étape-là. On ne peut que présenter les conclusions, comme la dame qui venait de parler l'a dit, que le rapport a été partagé au gouvernement. Je veux tout simplement que le gouvernement puisse tirer la conséquence de ces rapports-là et traire en justice les personnes qui ont été citées afin de réparer ce qui a été fait. C'est du moins ce que nous pouvons demander, parce que le contexte ne doit pas rester tel quel, parce que nous avons intérêt à améliorer l'image des marques de notre pays. Parce qu'en dehors de ces rapports que tout le monde appelle de tous les vœux de la communauté internationale, n'oublions pas que le même rapport peut aussi être versé ailleurs. D'ailleurs, ça peut être à la Cour pénale internationale. Mais quand même, lorsqu'il y a un début de travail chez vous, lorsque vous avez pu gérer les coupables, vous les avez condamnés à des peines exemplaires, je pense que ça peut être un bon signal au niveau de la communauté internationale pour que...
Alors, en conclusion, Jean-Marie, parce que nous sommes à la fin de l'émission.
Ma conclusion, j'aime notre pays, la République démocratique du Congo. Je voudrais que les messages de deuil, de désolation puissent s'arrêter. Je voudrais que tout soit fait pour relever les défis qui sont liés à la pauvreté criante de notre peuple. Je voudrais aussi lancer un message à nos ambassadeurs, entre guillemets, qui sont à la CENCO, de comprendre que le peuple veut l'alternance, le peuple veut aller aux élections, d'éteindre leurs divergences et de nous amener des élections paisibles pour tout le monde.
Merci Jean-Marie Kiamboué, Innocent Kaboukala. Ça sera aussi votre conclusion. Selon le bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, ces fosses communes remontent à septembre 2016. On se rappelle qu'à cette époque-là, il y avait des affrontements entre les miliciens et les FRDC. Est-ce qu'on peut conclure que les corps découverts dans ces fosses communes pourrait appartenir soit aux miliciens, soit aux militaires, puisqu'on dit qu'il y avait affrontement dans ces coins entre les FRDC et les miliciens de Kamwina Nsapu.
Oui, on peut y penser, mais ici, principalement, les victimes, c'était les miliciens de Kamwina Nsapu. Hein, donc, pour l'essentiel, on peut penser que l'essentiel de ce corps-là, ce sont ces miliciens-là. Mais il est aussi possible, parce qu'on a eu quand même certains éléments des FRDC dans ces échanges qui sont tombés. C'est peut-être possible aussi qu'on trouve dans le reste là certains corps qui soient des militaires ou de la police. Alors peut-être en guise de conclusion, je voudrais quand même dire deux petits mots par rapport à ça. Le premier mot, c'est que, comme on dit en français, qui peut le plus peut le moins. Le plus, c'est que le gouvernement de la République a commencé un petit travail sur l'enquête, et je ne vois pas pourquoi on va refuser qu'on puisse multiplier ces enquêtes qui viendraient de partout, comme l'a demandé Madame la coordonnatrice de cette mission conjointe. Et donc, ce serait le moins. Ajouter une autre enquête, une troisième, une quatrième, une cinquième, et cette multiplication d'enquêtes ne ferait que crédibiliser davantage la thèse d'un gouvernement qui est sincère et qui voudrait éclairer davantage tout ce qui se passe sur cette terre. Et le petit deuxième mot, ça sera par rapport à nos frères qui sont à la CENCO pour pouvoir échanger sur la question, sur la crise de la République démocratique du Congo. Et je crois qu'ils ont intérêt à pouvoir aller très vite et de manière sérieuse pour que d'ici quelques temps seulement, qu'on puisse mettre mettre fin à cet accord pour qu'il soit appliqué et que nous ayons un gouvernement qui puisse prendre en charge cette population qui n'a fait que trop souffrir.
Merci Innocent Kaboukiala. C'est la fin de cette émission. Merci à Guimaté qui était à la réalisation, au micro Kelly Nkouté. Mimi Kindou était à la prise de son. Vous pouvez réécouter cette émission demain à 4h15 heure de Kinshasa. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.